poésie et ainsi de suite, par Manu Farine.
En 1956 paraissait Howl d'Allen Ginsberg, trois chants pour une élégie de l'Amérique des années 50 et une révolution poétique. Aujourd'hui, autopsie d'un hurlement avec son traducteur, Nicolas Richard.
I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving, hysterical, naked, dragging themselves through the Negro streets at dawn looking for an angry fix. Angel-headed hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo in the machinery of night, who poverty and tatters and hollow-eyed and high sat up smoking in the supernatural darkness of cold water flats floating across the tops of cities contemplating jazz, who bared their brains to heaven under the L and saw Mohammedan angels staggering on tenement roofs illuminated.
La voix, la jeune voix d'Allen Ginsberg scandant en 1959 les premiers et fameux vers de Howl, un enregistrement dont il disait qu'il avait été enregistré avec un amour intrépide et imparfait de la trompette angélique de l'esprit. Avec donc ces fameux premiers vers, j'ai vu les plus grands esprits de ma génération détruits par la folie, affamés, hystériques, nus, se traînant à l'aube dans les quartiers noirs en quête d'un furieux shoot, initié à gueule d'ange brûlant pour l'antique lien céleste avec la dynamo étoilée dans la machinerie de nuit. Ces fameux vers qui font chacun unité de souffle ou de respiration, hein, cette fameuse cadence de la première partie du poème qui s'appuie sur la répétition de « qui ?» de « who ?» Et c'est bien un souffle qu'il s'est agi de traduire, Nicolas Richard, qui en proposait une nouvelle version aux éditions Christian Bourgois. Bonjour, bienvenue.
Bonjour Manu Farine.
Alors dans votre petit carnet noirci pendant le travail de traduction, vous vous étiez écrit une sorte d'ordre de mission en 5 points. Et le 2e point disait « écouter les enregistrements des lectures données par l'auteur ». Et le point 4 disait « ne pas commencer tout de suite à traduire, relire la VO en imaginant la voix d'Alain ». Qu'est-ce qu'elle vous disait, cette voix, alors cette voix imaginée ou cette voix entendue, comme celle qu'on vient d'entendre, cette voix si particulière qu'on dirait, dites-vous, qu'il mâche une pâte onctueuse?
Bah, ce qu'elle me disait, cette voix, c'était « ne pars pas tête baissée tout de suite, toi qui vas essayer de traduire ce poème ». Fait comme Ginsberg à propos de la respiration, prend le temps de respirer, de l'entendre et peut-être même physiquement de voir ce qui se passe. Et parce que la tentation grande aurait été de aller comme on fait pour les romans en général ou pratiquement systématiquement, on lit une fois et puis après on se met à la traduction, bille en tête. Et là, il se passe tellement de choses dans ce texte, il y a tellement de références obliques ou de jeux comme ça de miroir un peu cachés que j'avais besoin d'une part de l'entendre et de le réentendre, parce que Ginsberg l'a beaucoup dit, hein, ce poème, il l'a beaucoup déclamé en public. Et donc d'une part j'avais besoin de l'entendre et de le réentendre, et d'autre part j'avais besoin d'aller à la pêche pour savoir ce qu'il y avait derrière ces mots. Il y a quand même un certain nombre d'énigmes à résoudre.
Il le disait un peu toujours de la même manière?
Non, pas toujours, justement. Là, j'ai été étonné, je me souvenais plus de cette version-là. Non, il l'a dit de plein de façons différentes. Ce qui est assez amusant, c'est que sur les enregistrements qu'on a, je ne les ai pas tous écoutés, mais le public rit au même moment. Il y a des moments comme ça où on a les éclats de rire généraux dans la salle.
Alors, une des étapes de la traduction, du travail de traduction, même si avant de rentrer dans le studio, vous m'avez dit oui, c'est pas tout à fait vrai, mais alors je le tente quand même. Une des étapes de la traduction, ça a été de vous enregistrer vous-même. Alors je sais pas, j'imagine peut-être des petits bouts ou quelques-uns des vers. Qu'est-ce qu'il s'agissait de vérifier pour vous? Que ça sonne, que ça respire, que ça ne s'essouffle pas trop?
En fait, c'est amusant parce que je sais peut-être pas répondre à cette question, parce que j'ai essayé d'en faire quelque chose d'assez physique, en fait. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu dans l'oreille longtemps ce poème, et J'ai pas véritablement essayé de faire un véritable hors de mission pour le coup, comme on disait tout à l'heure, en me disant voilà ce que je vais faire, voilà ce qu'il faut éviter. J'ai essayé de procéder. C'est un peu paradoxal, mais relativement intuitivement, c'est-à-dire que voir ce que tenter des versions françaises, les modifier, les améliorer, et ensuite effectivement les entendre. Mais alors dire ce que je cherchais, ce que je voulais écarter, c'est assez difficile, parce qu'il y a quand même le grand écart évident sur un problème de traduction comme celui-là. Si j'essaye d'être fidèle aux sonorités, au rythme, je m'éloigne du sens. Et si je colle au sens, il y a un jeu sur les sonorités, mais qui ne sera pas le même. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est à ce titre-là que j'ai essayé de procéder un peu physiquement ou intuitivement, en me disant ce que je paie en termes de sonorité ici, je le retrouverai peut-être un peu ailleurs. Mais voilà, c'est la quadrature du cercle.
Alors, ce qui a tenu à la lecture de cette traduction, c'est cette idée effectivement du souffle, c'est-à-dire que chaque vers se tient en un seul souffle. De quoi est-ce que cette respiration-là prendrait la mesure? Parce que c'est un souffle qu'il a un peu théorisé d'une certaine façon, Ginsberg.
Oui, c'est une idée qu'il a empruntée à son collègue de Patterson dans le New Jersey qui s'appelle Williams.
Et, qui préface d'ailleurs.
Oui, qui a écrit une des préfaces dès le début. L'idée étant qu'effectivement, un vers devrait être lu en une seule respiration. Donc ça, c'est amusant parce que c'est une sorte d'objectif théorique. Et dans la réalité, on entend bien, d'ailleurs même dès les passages, là, le passage qu'on a entendu à l'instant, on voit bien qu'il le fait pas réellement, mais on sait que de même que le mot « qui revient tout au long de la première partie, contribue à structurer le poème. De même, cette idée quand même d'un vers qui pourrait être lu en une seule respiration le structurer également.
Alors, est-ce que vous voulez bien nous faire un petit peu lecture, Nicolas Richard ?
Howl pour Carl Solomon. J'ai vu les plus grands esprits de ma génération détruits par la folie, affamés, hystériques, nus, se traînant à l'aube dans les quartiers noirs en quête d'un furieux shoot, initiés à gueule d'ange brûlant pour l'antique lien céleste avec la dynamo étoilée dans la machinerie de nuit, qui, pauvreté et haillons et les yeux caves et envapés, veillaient fumant dans l'obscurité surnaturelle d'appartements à l'eau froide, flottant au-dessus des cimes des villes, contemplant le jazz, qui dénudaient leur cervelle au ciel sous le métro aérien et voyaient des anges mahométans titubant sur les toits de taudis illuminés, qui traversaient les universités les yeux radieux, cool, hallucinant Arkansas et tragédie lumière bleque parmi les savants de guerre, qui se faisaient expulser des académies pour folie et publication d'odes obscènes sur les vitres du crâne, qui se tapissaient dans des chambres parasées en sous-vêtements, brûlant leur argent dans des corbeilles et écoutant la terreur à travers le mur, qui se faisaient choper avec leur barbe pubienne rentrant à New York par l'arrêt d'eau avec une ceinture de marijuana, qui mangeaient du feu dans des hôtels à peinture ou buvaient de la térébenthine à Paradise Alley, la mort où se purgatorait le torse nuit après nuit, à coups de rêves, drogues, cauchemars éveillés, alcool et bites et couilles à l'infini, incomparables rues aveugles de nuages frémissants et foudre dans l'esprit sautant vers les pôles du Canada et de Patterson, illuminant tout le monde immobile du temps interstice.
Merci. On va revenir au poème, bien sûr, mais peut-être juste une question sur cette lecture, sur ce qu'elle vous fait à vous. Qu'est-ce que devient un texte traduit pour vous? Par exemple, là, quand vous lisez en français, dans votre traduction, qu'est-ce que vous lisez? Est-ce que vous lisez le poème de Ginsberg? Est-ce que vous lisez votre travail, un souvenir de lecture, un souvenir de travail? Est-ce que c'est votre voix à vous que vous lisez?
Ce que je lis, c'est des semaines et des semaines de recherche aussi. Par exemple, là, sur la fin, Paradise Alley, c'était le nom que la bande de copains donnait à un appartement de la 11e rue, dont l'adresse est assez facile à retrouver. Là, par exemple, Couille à l'infini. Là, quand je lis ça, c'est l'avant-dernière phrase que j'ai lue, je me dis, oui, là, c'est effectivement un jeu de mots que j'ai pas pu vraiment retranscrire, parce que ça aurait été trop lourd dans l'économie générale, mais c'est l'idée de ball, c'est dans le sens de s'éclater, to have a ball, même si le sens sexuel est le premier dans le texte. Et donc voilà, quand je le lis, quand ça dit, ou par exemple le temps que j'ai pu passer sur où les hôtels, des hôtels à peinture, tout ça, ça paraît complètement simple. Et en anglais, c'est paint hotels, ce qui est parfaitement simple. Hein, c'est le mot peinture, le mot hôtel. Et simplement, qu'est-ce qu'on en fait de ce truc? Parce que ça correspond à quoi? Et donc j'ai demandé à des spécialistes. J'étais en contact avec des universitaires qui avaient enseigné ce poème, qui avait étaient amis et proches de Ginsberg, et eux-mêmes disaient ça fait référence aux hôtels bon marché qui sentaient la peinture ou avec les effluves de térébenthine, mais ils ne le précisent pas. Ils carambolent ces deux mots, et puis il faut se débrouiller avec. Et donc là, c'est une des questions toutes simples, mais qui revient constamment. Le complément du nom, en anglais, on appose deux substantifs, et puis c'est facile, souvent c'est un complément du nom. En français, est-ce que je maintiens, pour des raisons de rythme, ce carambolage, ou est-ce que je précise, je rajoute un petit A ou un petit D? Enfin voilà, tout ce qui défile dans ma tête.
C'est ça que vous lisez, en fait, c'est ça que vous venez de nous lire.
Oui. Voilà, j'ai parlé que d'un mot. Hein.
Alors je sais bien que les questions biographiques importent assez peu au traducteur que vous êtes, mais quand même, pour en savoir un petit peu plus, qui est Ginsberg, véritablement, en 1955, lorsqu'il se met à écrire ce poème-là. Parce que dans ce même recueil, il y a des poèmes de jeunesse, hein, qui sont de facture plus classique, où on repère un peu mieux, d'ailleurs, qui sont les poètes qui ont soufflé par-dessus son épaule, même s'il en reste quelques-uns dans Hall, mais dans les poèmes de jeunesse, on les entend bien. En 1955, qui est-il?
Il a déjà beaucoup cheminé. Hein. Il est né en 1926. Il est entré très tôt à l'université de Columbia. C'est un plutôt très bon élève. Il est entré en droit à l'université de Columbia à New York. Son père était lui-même poète. Sa mère était militante marxiste absolument convaincue, qui l'a beaucoup marqué. Puis on entend des traces assez nettes dans le poème. L'influence des deux parents, d'ailleurs. Entre-temps, il a réussi à se faire virer de Columbia pendant un an.
Il en est question dans le poème.
Il en est question dans la première partie pour avoir écrit dans la crasse d'une vitre, je ne sais plus quoi exactement, le machin has no balls, le doyen n'a pas de couilles, ou quelque chose comme ça. Donc il a toute une expérience. Il a commencé de manière assez... Il a commencé par travailler, il s'est retrouvé dans le marketing, à une vingtaine d'années. Et là, il n'a pas tout à fait 30 ans quand il écrit ça. On est à San Francisco, à la Six Gallery. Et l'état d'esprit, c'est que il peut se lancer dans un poème comme ça parce qu'il a la certitude qu'il ne sera pas publié, parce que, à l'époque, parce que justement, il y a des allusions sexuelles, et en particulier homosexuelles, si explicites qu'en 1955, en Amérique, ce ne sera pas possible. Donc il y a un paradoxe, c'est-à-dire que toute cette énergie qu'il arrive à canaliser en le déclamant de manière assez magnifique, elle est aussi libérée par le fait qu'il sait qu'en gros, ses parents ne le liront pas. Parce que c'est quand même de ça, enfin, lui-même s'est exprimé là-dessus.
Ben, on va l'écouter justement.
To tell you the truth, and as I've said before, Howl was written sort of in despair at writing poetry. I figured I hadn't succeeded in writing anything interesting. And so I said, well, then I'll just write writing for myself and I'll forget about it.
À vrai dire, et comme je l'ai déjà dit, Howl a été écrit alors que je désespérais de pouvoir écrire de la poésie. Je m'en croyais incapable. Je n'avais pas réussi à écrire quoi que ce soit d'intéressant, alors je m'étais dit, bon, alors je vais me contenter d'écrire pour moi-même, et je me sortirai de la tête l'idée de publier de la poésie. Et je me suis mis à écrire. J'ai vu les plus grands esprits de ma génération détruits par la folie, et j'ai continué à empiler ce blabla mythologico-psychologique des plus grotesques, ironiques, parodiques et sincères. Et quand je suis arrivée à « Je me suis fait enculer par des beaux marins et j'ai crié de plaisir » plutôt que « J'ai crié de douleur », je me suis rendu compte à quel point c'était drôle. Mais je savais que mon père ne voudrait jamais lire ça. Dès lors, j'ai compris qu'il me serait impossible de publier ce poème, et je me suis donc sentie complètement libre d'écrire ce que je voulais. Si vous ne montrez pas ce que vous faites, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'était le côté marrant. Et c'est pour ça que le poème est bon, parce qu'il a jailli de mon intimité. Donc c'était exactement ce que vous disiez, Nicolas Richard. Alors on connaît la tendance aussi un peu je sais pas comment dire, auto-agiographique de Ginsberg. Est-ce qu'il faut vraiment le croire quand il dit qu'il l'a écrit pour lui, hein? Il dit quelque chose d'écrit pour l'oreille de mon âme et pour un petit nombre d'oreilles choisies.
Oui, c'est ça. J'ai entendu ou lu quelque part qu'il a, il affirmait l'avoir écrit pour... Il voulait connaître tous ceux, toute la bande là qui était à la Six Gallery. Il les connaissait. Et disons que c'était une lecture avinée entre copains. Oui, moi j'ai pas d'autres infos. Ça me paraît ça me paraît cohérent. Maintenant, il y a des influences très très nettes. Il y a quand même l'influence de Walt Whitman. Il y a des influences de Blake. Enfin après il y a tout un travail de je sais pas comment dire de filtration ou en tout
le
cas
Depp qui reconnaît d'ailleurs hein, dans la dédicace aussi à Kerouac notamment puisque c'est dédié aussi à Kerouac, à Burroughs et à Neil Cassady.
Oui. Si je dis et puis l'éducateur principal, c'est le Carl Solomon.
Carl Solomon, qui était donc, alors peut-être rappeler qui est celui qui est devenu le mythique Carl Solomon.
C'est ça. En fait, ce poème, initialement, qui devait être lu à quelques copains, est devenu complètement mythique et a vraiment bouleversé d'une certaine manière les lettres américaines, mais et donc Carl Solomon c'était presque un clin d'œil d'un de ses copains qui était en fait éditeur, c'est lui qui a édité Junkie de Burroughs et c'est lui qui a reçu la première version de Sur la route de Kerouac, donc c'est un éditeur. Et après, il y a eu des explications entre eux, parce qu'en fait, Carl Solomon, par la force des choses, en même temps que le poème devenait un monstre sacré, devenait totalement mythique, bah, du coup, Carl Solomon existant dans la vraie vie, a été obligé à traîner un peu ce boulet. Donc, dans la très belle édition pour le cinquantenaire, là, en anglais, avec des photos, des commentaires, des lettres, c'est un livre qui doit faire 150 pages, qui est absolument passionnant, exclusivement consacré à Hall. Il y a une grande lettre de Solomon et Carl Solomon et réponse de Ginsberg en
qui disant s'excuse un peu.
Oui, oui, en disant effectivement, j'ai utilisé ton nom, mais il faut bien comprendre que c'est autre chose.
Alors l'édition justement qui paraît reproduit deux pages du tapiscrit raturé, repris à de nombreux endroits, qui étaient des pages qu'on trouvait dans le livre que vous venez de citer. Qu'est-ce qu'on sait de l'écriture même du poème, c'est-à-dire des conditions d'écriture du poème, du cerveau à la page, comme vous dites,
Nicolas Richard? Ça a été écrit par trois jaillissements en fait, quatre, en tout cas la première partie, la grande partie 1, qui est la partie principale, a été écrite presque d'un jet. Après, ça a été relu, donc ça, c'est grâce au manuscrit qu'on peut voir le travail qui a été fait. Et après, la deuxième et la troisième partie ont été aussi écrites dans la journée ou dans la demi-journée. Donc, c'est assez intéressant ce qu'il en dit, c'est-à-dire qu'on a le sentiment d'un travail constant de maturation. Peut-être il a mis 27 années, je ne sais plus s'il avait 27 ou 28 ans. Pour laisser mûrir ce projet. En revanche, il a décidé de l'écrire extrêmement brutalement, en un jet.
Poésie et ainsi de suite, Manu Farine.
Et toujours sur France Culture, aujourd'hui à la technique Ludovic Auger, à la réalisation June Lauper avec la collaboration de Thierry Beauchamp, que je remercie d'ailleurs pour la traduction de l'interview qu'on a écoutée. Et aujourd'hui avec nous Nicolas Richard pour une retraduction de Hall d'Allen Ginsberg aux éditions Bourgois, poème écrit en 55, paru en 56, gravé je crois pour la première fois en 59, un hurlement. Oui d'ailleurs vous ne traduisez pas le titre, ça ne se fait pas traduire le
C'est
titre.
C'est au contraire. Au contraire. Il y a une histoire derrière ça, c'est-à-dire que quand les éditions Bourgois m'ont proposé de retraduire Howl après plus d'un demi-siècle, je leur ai dit génial, bah dans ce cas-là, on va aussi traduire le titre. Et moi je voulais l'appeler Hurle qui est graphiquement qui ressemble au Howl et qui retentit comme un cri. Et les éditions étaient tout à fait d'accord, simplement c'est les ayants droit de Ginsberg qui n'ont pas voulu. Et c'est intéressant parce que Howl, c'est devenu une marque. Le poème a eu un tel impact sur la société américaine, même dans le monde de la poésie en général, que finalement les ayants droit n'ont pas accepté. Ce que je déplore.
C'est dit.
exploding, violence flaring, bullets loading. You're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war, but what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. Don't you understand what I'm trying to say? Can't you feel the fears I'm feeling today? If the button is pushed, there's no running away. There'll be no one to save with the world in a grave. Take a look around you, boy. It's bound to scare you, boy. And you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction.
La voix de Barry McGuire, Eve of Destruction, 1965. Donc on est 10 ans après un protest song que vous avez choisi de nous faire entendre, Nicolas Richard. J'imagine aussi, histoire de rappeler à quel point c'est aussi devenu un manifeste pour cette génération-là, que ce poème Hole, hein, qui est devenu, en fait, il faudrait consacrer encore d'autres émissions à l'histoire de la réception de ce poème, hein, qui a vraiment circulé et pris des formes diverses et des formes de réception diverses. Qu'est-ce que ça voulait dire que de le retraduire, hein? Est-ce que c'est lui donner une autre lecture ou est-ce que c'était tâcher de le comprendre, hein? Vous dites que vous vouliez comprendre ce qui se passe dans Hole, hein? Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs dans Hole pour vous?
La chanson qu'on vient d'entendre, elle donne un élément sur ce qui se passe, je trouve. C'est-à-dire qu'effectivement, j'avais pas repensé à cette façon de voir les choses, mais l'immédiate après-guerre, la guerre froide, le péril de la bombe atomique, et il y a ce sentiment aussi, hein, quand les en 55, on est en plein dedans. Donc voilà, il y a plein de choses, mais c'est pas bon. Chercher à comprendre, c'est vrai que c'est à titre personnel à partir du moment où j'ai accepté la mission, mais le retraduire, c'est pour non pas le mettre au goût du jour, mais vraiment le faire entendre peut-être de manière un peu fraîche, c'est-à-dire pour l'auditeur ou le lecteur français. Faire une autre proposition dans l'idée que j'espère bien il y en aura d'autres des traductions de Hole en français, parce que c'est un texte évidemment ultimement subjectif, mais ma subjectivité à moi est à ses limites, et donc je suis curieux, j'ai presque hâte de l'entendre à travers le cerveau, les yeux, les oreilles d'une autre traductrice ou d'un autre traducteur. Je vois ça comme, en tout cas, je vois ça non pas comme une voilà, ça y est, maintenant ça a été traduit, c'est bon. C'est au contraire, réouvrons le robinet, que tout ça reste fluide et qu'on sache que traduire en particulier un poème, mais de manière traduite en général, c'est pertinent un certain temps et sûrement pas pour l'éternité.
Ça se termine la préface, hein, de 56, je crois, la préface de William Carlos Williams dont on parlait tout à l'heure, termine sa préface par cette drôle de phrase d'ailleurs, « Relevez vos jupes, mesdames, nous traversons l'enfer ». Vous le décrivez comme un poème de dèche et de solitude, hurlement en quête de jazz et de baise et de soupe. C'est ce que vous écrivez dans le texte qui l'accompagne, hein, dans le bref texte qui l'accompagne. C'est aussi une sorte de descente aux enfers dans une Amérique un peu dantesque, en tout cas pour ce qui est de la première partie, une Amérique qui aurait, au fond, qui aurait trahi quelle promesse? Qu'est-ce que cette articulation de ces trois chants, parce que il nous reste hélas pas beaucoup de temps, mais il faut rappeler qu'il y a quand même trois chants, il n'y a pas que ce premier chant apocalyptique, pourrait dire justement de cette trahison?
Par où commencer pour répondre à cette question? Parce qu'en même temps que j'entends cette question et que, et effectivement, la trahison, c'est bon, rapidement ce qu'on pourrait appeler le rêve américain, et puis que faire à partir du moment où la Seconde Guerre mondiale a eu lieu, et en gros refuser l'idée de la production à tout craint, et pourquoi pour plus de solitude. Mais C'est Pierre-Yves Pétillon dans sa postface qui dit quelque chose d'intéressant. Il termine, je crois, son texte là-dessus en disant « Ne négligeons pas la dimension comique aussi de véritablement d'humour new-yorkais. »
Il dit que c'est une saison, c'est peut-être une saison en enfer par un poète comique.
Oui, et alors, il va même plus loin parce que l'image est vraiment intéressante. Il dit qu'il faudrait presque rapprocher ça du sermon évangélique et imaginer Ginsberg sur sa boîte de savon en train de haranguer, je ne sais plus exactement comment il dit, haranguant le public. Et il y a cette dimension-là, c'est-à-dire qu'il y a effectivement, comme vous dites, le constat de solitude, de détresse qui est très net là, dans les passages qu'on a lus et qu'on a entendus. Mais il y a aussi cette dimension humoristique. Il y a aussi cette autodérision d'une part, et puis l'envie de choquer, d'amuser, de distraire. Voilà, il y a toutes ces choses qui se passent en même temps.
Alors, vous, je ne sais pas si ça vous a amusé, en tout cas, à le traduire, parce qu'à vous entendre, vous étiez venu l'année passée dans cette même émission pour parler d'un autre livre qui était une sorte de journal de traducteur, et où vous nous aviez dit à quel point c'était éreintant que de travailler là-dessus, et que vous aviez passé sur chaque vers un temps ridicule. C'était les termes que vous aviez employés. Qu'est-ce qui coince tellement? Est-ce que c'est la langue française qui rappelle à l'ordre d'une certaine façon par rapport à la langue américaine, hein? Il faut lutter contre la langue française pour traduire un poème comme celui-là?
Oui, effectivement. Je pense parce que en 55, avec Howl, Ginsberg fait vraiment quelque chose à la langue anglaise, quand même. Il lui fait faire une sorte de, je sais pas quoi, d'entortillement. Il l'a fait couler de manière inédite, quoi.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que là, ce qu'on a entendu, c'est succession de substantifs, ces images ces idées d'interstices à combler, de juxtaposition, et qui créent un sens nouveau, qui sont grammaticalement, voilà, tout simplement, pour répondre à la question, même en anglais, déjà grammaticalement ou de manière syntaxique, ça tient pas toujours, et c'est ça qui l'intéresse. Donc la langue française, il faut voir dans quelle mesure elle est pas totalement raide non plus, mais elle a peut-être pas la même souplesse. Et puis surtout, il faut pas la faire tordre dans tous les sens. Il faut savoir aussi ce qu'il a voulu dire. Il y a cet exemple quand même qui est frappant, juste je le mentionne très vite. Quand là on a lu le passage avec Arkansas, en fait quand on regarde les versions antérieures, le mot était anarchie. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment, ça en dit long. C'est-à-dire que il faut pas non plus être bloqué sur le nom d'un État américain, parce que il aimait bien la façon dont ça sonnait, et finalement il l'a remplacé par autre chose qui nous emmène dans le Midwest.
Howl et autres poèmes apparus aux éditions Christian Bourgois, Nicolas Richard, merci. C'est la fin de cette émission que vous pouvez réécouter, partager sur l'appli Radio France, Poésie et ainsi de suite. S'écoute en partenariat avec La Croix l'Hebdo. Et comme chaque semaine, un poème pour la route vous attend en kiosque et dans vos oreilles. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour évoquer, si tout va bien, les poètes au bout du pinceau de Fuseli.